à toutes et à tous, et surtout merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de la tribune de presse de ce vendredi 6 juin 2016. Avec moi dans ce studio, je m'en vais saluer Jean-Pierre Caïmbi. Bonsoir.
Bonsoir Berry, c'est un plaisir d'être encore dans cette émission.
Vous êtes directeur et responsable de la presse numérique à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTG en sigle, un média de Kinshasa. Peter Tcheny, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général du Vrai Journal, partenaire à CCTV et certains autres médias quinois. Et au téléphone, Chamboui Batoubenga, bonsoir. Il va nous rejoindre dans un instant. Il est journaliste et directeur de programme à la radio-télévision Atlantique, une télévision émettant à Matadi dans la province du Congo central. Je dis aussi bonsoir à Sylvain Matundu qui assure la mise en onde de ce numéro. Et c'est la politique qui est au menu des trois quarts d'heure d'analyse et décryptage de l'actualité de la semaine. D'abord, le PPRD, parti présidentiel, a organisé samedi dernier à Kinshasa une marche dite de paix pour soutenir la paix et le dialogue inclusif et célébrer en même temps le 45e anniversaire d'âge du chef de l'État. Dans sa déclaration à cette occasion, le secrétaire général du parti présidentiel a évoqué l'idée de la tenue d'un référendum constitutionnel s'appuyant sur les exemples du Congo-Brazzaville, du Rwanda et du Burundi. Et puis depuis Bruxelles, vous le savez, les délégués de l'opposition et des organisations de la société civile ont fini leur conclave hier à minuit sur invitation d'Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS bien sûr. Ils ont signé tous à l'unanimité un document appelé Acte d'engagement de Jean Val. Nous en saurons davantage dans cette émission. On commentera aussi le dernier rapport du gouvernement sur l'opération Likofi et l'insécurité à l'est de la RDC qui dérange la quiétude des paisibles citoyens congolais. Mais avant tout, voici la revue de presse que nous présente Guy Maté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Conclave de l'opposition à Bruxelles, l'idée de la tenue du référendum constitutionnel évoqué par le PPRD, ainsi que la hausse des prix de l'Internet sont parmi les sujets sur lesquels reviennent les journaux de Kinshasa. Ajoutez à cela la résurgence de l'insécurité dans l'est de la RDC. C'est ainsi que le potentiel titre « Le référendum au nouveau centre de gravité du landerneau politique ». Et au journal de renchérir, comme il fallait s'y attendre, le discours soutien du PPRD au président de la République a donné lieu à un début de polémique qui, trois jours plus tard, s'est apparemment dégonflé. L'ombre d'un référendum hante-t-elle déjà les esprits quand bien même il y a des gens qui crient aux fantômes, s'interrogent ces quotidiens. Ils ont leur raison que la raison elle-même ne connaît point, surtout là où Mova a soulevé l'idée d'organiser un référendum pour réviser la Constitution afin de permettre au président de la République de se présenter pour un troisième mandat. Forum des As constate une triomphale marche du PPRD le 4 juin à Kinshasa, le secret de la réussite de l'équipe Mova. Et la prospérité titre, dialogue, fidélité à Kabila, RDC, le PPRD marche et triomphe. Au sujet de la rencontre de l'opposition à Bruxelles, le potentiel titre, l'opposition en conférence à Bruxelles, Étienne Tshisekedi, épargner au pays un chaos généralisé. Ce quotidien poursuit en affirmant que, dans son discours inaugural, Étienne Tshisekedi a cerné l'objectif d'une conférence qu'il qualifie de tous les espoirs. Il s'agit, pense-t-il, d'arrêter ensemble des stratégies pour mettre fin à cette crise et épargner au pays un chaos généralisé. La charpente de cette conférence de Bruxelles va, selon Tshisekedi, s'articuler autour de trois points, sceller l'unité des forces politiques et sociales acquises au changement autour des objectifs communs, convenir d'aller au dialogue politique sous la modération du facilitateur international, veiller à la bonne mise en application de la résolution 2277 par toutes les parties concernées. La tempête tropicale, de son côté, estime qu'au conclave de Bruxelles, Étienne Tshisekedi priorise l'intérêt de la nation. Et cet tabloïd, reprenant un extrait du discours de Tshisekedi, précise que le président de l'UDPS a réaffirmé son intention d'aller au dialogue. « Nous avons toujours lutté pour la paix », a-t-il dit. Il a aussi annoncé qu'au pré-dialogue avec les délégués de la présidence de la République, il avait été convenu la libération de tous les prisonniers politiques. Aussi a-t-il appelé les participants à ces conclaves à taire leurs divergences pour l'intérêt du Congo. Sous le chapitre de l'insécurité, Radio Capi.net rapporte les propos de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC qui annonce l'appui de la communauté internationale à la population de Beni. La communauté internationale va apporter tout son soutien aux autorités congolaises pour empêcher d'autres massacres de civils en territoire de Beni. Graham Zebede a fait cette déclaration mardi dernier à l'issue de son entretien avec le gouverneur du Nord Kivu à Goma. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté. Dans l'actualité de cette semaine, nous retenons aussi que le ministère de l'Intérieur a publié mardi 6 juin le rapport d'évaluation et de contrôle de l'opération Likofi contre les Kolona menée entre novembre 2013 et février 2014. Dans ce rapport, le ministre de l'Intérieur dénonce ce qu'il qualifie d'accusations hâtives et gratuites de la part des ONG. Je rappelle qu'en son temps, Human Rights Watch faisait état d'au moins 51 exécutions sommaires réalisées par les policiers commis à cette opération. Jean-Pierre, comment vous avez analysé le rapport du ministère de l'Intérieur ?
D'abord, en son temps, j'avais dénoncé ce rapport de Human Rights Watch qui n'était pas étayé, qui ne reposait que sur des spéculations, qui ne contenait pas d'éléments matériels probants.
Les enlèvements et les exécutions sommaires étaient gratuits.
Exécutions sommaires, il n'en a pas été question. Il y a eu plutôt des arrestations de jeunes gens qui troublent la quiétude de Quinois. Et c'était dans l'apanage justement de la police de faire son travail. On sait que la criminalité urbaine gagne du terrain un peu partout. C'est un phénomène sociétal et qu'il revient à la police de prendre le taureau par les cornes et de sécuriser la population. Alors il y a toujours une tendance qui s'élève pour dire que des enquêtes menées par des organismes gouvernementaux n'aboutissent jamais, les rapports ne sont jamais rendus publics. Et j'ai salué cette initiative du ministre Beauchamp,
même après 3 ans.
Il était temps. Le plus important pour nous, c'est que nous connaissons que il y a eu de jeunes gens qui avaient été arrêtés. Certains sont morts. Et d'ailleurs, l'opération du Kofi est très réclamée aujourd'hui par la population.
Très bien.
Je demande au gouvernement qui a pensé à la relance de cette opération sous une autre dénomination, que l'opération soit vite relancée parce que la criminalité urbaine est encore en train de prendre du chemin sur Kinshasa avec des proportions un peu plus exponentielles.
Voilà. Alors Peter, comment vous avez analysé le rapport du gouvernement ?
D'abord, j'apprécie l'initiative, combien même qu'elle intervient assez tardivement.
3 ans.
Oui, j'ai aussi l'impression que c'est un rapport, non pas pour éclairer les faits, mais pour réagir par rapport à un rapport précédent de Human Rights Watch. C'est l'impression que j'ai. Mais de toute évidence, il est clair que l'opération Likofi, il y a eu des dérapages et qu'il faudrait corriger ces dérapages. Mais la démarche, je l'approuve totalement. Parce que ce qui se passe dans les communes et quartiers, c'est déplorable. Récemment, le Vrai Journal a été appelé à Mongafula, précisément à Massangambila, où la population s'est prise en charge. Les jeunes gens aujourd'hui commencent à faire des veillées la nuit. Les jeunes gens de 16 à 25 ans veillées pour essayer un peu de mettre un terme à cette situation, parce que la police est démissionnaire dans ce secteur. Je vous informe qu'ils ont pu arrêter 2-3 personne. Malheureusement, il y a un coulouneur, comme on appelle, qui a été brûlé vif. Bon, le général Kanyama est descendu sur les lieux. Il a essayé un peu de sensibiliser tout le monde à la prise de conscience et sensibiliser la police de ce qu'on a. Mais c'est un phénomène qui dérange. Le phénomène Kuluna fait
alors,
énormément de mal.
Très rapidement, l'ONG Human Rights Watch a réagi aussi au rapport du gouvernement disant que ce rapport ne sanctionne pas les présumés auteurs du dérapage. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'aimerais vraiment que nous puissions faire l'équilibre. Il est important de sanctionner les présumés du dérapage, mais il est aussi important de voir en amont ce qui se passe. Vous savez, on a vécu plusieurs fois, moi j'ai été victime de cette situation de Kuluna. Si vraiment le gouvernement veut aller jusqu'au bout et appliquer des méthodes assez dures, mais en respectant le droit de l'homme, évidemment, pour mettre un terme à cette situation, c'est très important. Mais l'autre paire de manches qu'il faudrait savoir aussi, c'est que il ne faudrait pas combattre les conséquences, mais il faut combattre les causes. Pourquoi nous avons le phénomène Kuluna aujourd'hui ? À un certain moment, vous verrez que c'est les enfants des fonctionnaires, des militaires et tout, dont leurs parents sont traités d'une certaine façon, malheureusement, et ils ont cette situation. Mais je suis tout à fait d'accord que le gouvernement doit mettre le paquet pour essayer un peu de mettre un terme à ce phénomène qui dérange plus d'un.
Chambouillet, vous êtes avec nous, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Voilà, comment vous avez accueilli le rapport du gouvernement sur l'opération d'évaluation et de contrôle de l'opération Likofi ?
Oui, merci, nous avons accueilli ce rapport avec joie. Parce que vous savez, souvent, on a toujours reproché le gouvernement, on entame toujours des enquêtes, on fait ceci, cela, mais jamais on rend public le rapport. Mais cette fois-ci, il y a eu quand même un rapport bien que tardif. Par rapport au contenu de ce rapport, c'est que le gouvernement montre qu'il n'y a pas eu exécution, ceci, cela. Mais vous savez qu'il y a eu beaucoup d'ONG qui avaient travaillé sur ces dossiers et que les résultats étaient déjà rendus publics. Et ce que le gouvernement donne aujourd'hui, vous savez, souvent quand le gouvernement donne ses résultats, il y a toujours à manger, à boire dedans. Mais l'essentiel est que cette fois-ci, on a quand même publié les rapports, mais nous souscrivons à ce que les auteurs des violations des droits de l'homme soient punis. Hein, nous attendons maintenant l'étape de sanctions.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous?
Voilà. L'actualité chez nous, c'est la construction du bâtiment du gouvernorat. Vous savez, ça fait un bon laps de temps où l'ancien bâtiment avait été détruit parce qu'il présentait déjà des fissures, ceci, cela. Le gouvernement provincial en place avait pensé construire un nouveau bâtiment, mais ça prend un peu de temps, un peu de retard, ça ne se construisait pas. Mais curieusement, on a vu les Chinois utiliser une technologie un peu extraordinaire. Donc, ça fait que la journée, vous voyez, ils sont en train de travailler, ils arrivent jusqu'à un certain niveau, et le lendemain, quand vous passez, donc, on peut dire que le bâtiment est en train de pousser comme les champignons.
D'accord.
Hein? Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent de Kinzambwete, de Boko Hinga, Songololo, un peu ailleurs, ils viennent pour voir comment on est en train de construire ces bâtiments, et surtout, l'ossature est déjà là, tout en fer. Tout vraiment en fer. On se demande, c'est un bâtiment qui pourra faire même 2 siècles, 3 siècles.
Merci beaucoup. On va rester sur le chapitre insécurité pour parler justement cette fois-ci de l'insécurité qui règne en maître dans la partie est du pays. Cette semaine, une centaine de kidnappings attribués à la LRA a été enregistrés à Bondo dans la province du Bas-Ouélé. Quelle lecture vous faites finalement de cette insécurité qui devient chronique dans la partie est?
La lecture, elle est simple. Il ne faudrait pas être savant pour voir que le gouvernement fait preuve d'une incapacité totale par rapport à cette situation. On ne peut pas gérer les gens pendant 2 mandats, voire même avec un bonus, parce que le président actuel est là depuis 15 ans et n'est pas être en mesure de sécuriser une portion du territoire. Aujourd'hui, il y a une politique à pouvoir insécuriser un coin du pays et on sème le désarroi, la population fouille les secteurs et il y a cette histoire de peuplement. Il y a un peuple qui vient de quelque part. De l'autre fois ici sur Radio Capuche, j'ai suivi 5000 personnes se sont déplacées pour un lieu.
C'est ils viennent encore.
Voilà, ça veut dire qu'on vient, on sème la terreur, les gens quittent les secteurs et il y a un peuple qui vient et puis on ne reconnaît pas le chef coutumier qui est sur le terrain et deux fois même il est tué. Dans 5, 10, 15 ans, les gens vont se réclamer d'un État. On comprend le jeu qui se joue là. Et malheureusement, sous l'œil, je ne sais pas dire. Je vais me réserver comme je vais dire sous l'œil impuissant, pour être gentil, du régime. Et ça, c'est regrettable. Parce qu'aujourd'hui, souvenez-vous qu'on nous a dit que la RDC a été pacifiée. Lorsqu'on nous parle de pacification, nous allons même en parler ici d'une marche qui a eu lieu du PPRD pour souhaiter 45 ans, un bon anniversaire au chef de l'État. Lorsqu'on nous parle d'une pacification et d'une marche où vous souhaitez bon anniversaire aux gens, vous fêtez. Pendant ce temps, il y a des gens dans un coin du pays en train de mourir. Vous êtes au salon en train de fêter. Dans votre chambre, il y a vos enfants qui sont en train de mourir. Vous êtes responsable ou irresponsable? Alors, en ce moment-là, que peut-on dire? Que c'est un silence coupable ou on est complice? C'est des questions qu'on se pose.
Voilà.
Et ceux qui sont dans ce secteur-là, lorsqu'ils nous entendent, lorsqu'ils voient ce qui se passe ici, ils se posent la question de savoir, ils sont au Congo ou pas.
D'accord.
Et ça, c'est dommage.
Voilà. Jean-Pierre, on a parlé aussi de l'arrivée des populations inconnues et des tueries en masse en Ituri. Et même à Beni, ça continue toujours. Qu'en pensez-vous finalement? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en finir une fois pour toutes avec toutes ces tueries à l'est de la RDC?
Bien, écoutez, je voudrais commencer par saluer Chamboui Batubenga qui nous a finalement rejoint. Chamboui, un grand frère. J'ai été stagiaire chez lui un moment, on se connaît bien. Je connais mieux la question sécuritaire pour avoir été moi-même dans certains théâtres des opérations. Contrairement à ce que Peter dit, aujourd'hui, la question sécuritaire est au cœur de tous les débats. Il ne peut pas me démontrer qu'un seul pays, qu'un seul coin du monde est sécurisé. On a vu avec l'ouverture, le démarrage de l'euro 2016, on a vu comment on ne sait pas quelles dispositions prendre connaissant l'imprévisibilité des terroristes. Alors,
oui, est-ce que c'est le terrorisme en RDC ou
bien c'est...
Ça s'apparente au pur terrorisme. D'accord. Quand on procède aux enlèvements, au kidnapping, on procède à des tueries à coups de machette et de hache, c'est du pur terrorisme. Aujourd'hui, un seul coin du monde n'est pas en sécurité. Si les pays les mieux équipés peinent à venir à bout de ces phénomènes, à combien plus forte raison la République démocratique du Congo. Il a parlé de la pacification.
Rapidement.
Ce que
rapidement.
Nous avons aujourd'hui, c'est juste des simples poches résiduelles, des poches de résistance. On n'a plus une guerre classique. On n'a pas de guerre classique dans ce pays. On n'a pas une rébellion à gauche, à droite. C'est juste des poches de résistance. Et évidemment que nos troupes de force et de défense sont à pied d'œuvre. Je suis sûr, je reste convaincu que cette question trouvera des problèmes, des solutions, vu les moyens investis dans le secteur.
Merci beaucoup pour vos commentaires. On va passer tout de suite à notre premier thème de la soirée qui concerne le projet de référendum du PPRD. Justement, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a organisé samedi dernier à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC une marche dite de paix pour soutenir la paix et le dialogue inclusif, ainsi que célébrer le 45e anniversaire d'âge du chef de l'État. Dans sa déclaration à cette occasion, le secrétaire général du PPRD a évoqué l'idée de la tenue d'un référendum constitutionnel s'appuyant sur les exemples du Congo-Brazzaville, du Rwanda et du Burundi. Retour sur la marche et les déclarations avec vous, Alain Irung.
Les différents membres du parti au pouvoir, vêtus de jaune, de rouge et de blanc, arboraient des drapeaux et scandaient des chansons à l'honneur du président de la République. Sur des calicots et banderoles de PPRD Cellule Lukunga ou PPRD Régie des Eaux, on pouvait lire « Bon anniversaire Raïs ». En effet, pour célébrer cet événement, tous ses partisans ont marché du rond-point Moulard à Bandal jusqu'au stade Vélodrome à Kintambo. Une marche qui a drainé un monde important. Pour le secrétaire général du PPRD, Henri Movasakani, le message est clair.
Ça peut être un message fort de la population congolaise pour dire à ceux qui hésitent encore qu'il est temps de venir au dialogue parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si vous n'allez pas au dialogue, ce peuple-là, il est souverain, il prendra sa décision.
Interrogé par RFI, Henri Mova a ajouté, je cite, « Le jour vient et il n'est plus très loin ce jour-là où le peuple souverain décidera de son sort. Et nous, on s'inclinera devant cette volonté. Et la souveraineté populaire est que vous soyez à l'ONU, en France ou ailleurs, si le peuple décide de son référendum, il va le faire. Le peuple congolais de Brazzaville l'a fait, le peuple burundais l'a fait. Vous pensez que nous sommes si amorphes pour ne pas le faire? Donc apprenez à lire les signes de temps. » Fin de citation. Et Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire général adjoint du PPRD, de poursuivre.
Kabila est grand, il a la population, il a la base. Et les gens ont demandé maintenant ici le référendum. Ça fait commencer par une pétition. Les gens disent aujourd'hui, c'est maintenant que le mandat de Kabila commence.
Au-delà des politiques, une participante étudiante à l'ISP Gombe pense, elle, aux victimes à l'est du pays. Un vœu aussi partagé par plusieurs manifestants.
Vous venez de nous prendre en cours. Sachez que Berry Franklin Luchaka, qui vous présente cette tribune de presse, reçoit dans ce studio Jean-Pierre Kayembe, responsable de la presse numérique à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTG en sigle. Peter Tcheny, directeur général du Vrai Journal, partenaire à Canal Congo Télévision et certains autres médias quinois. Et Chamboui Batoubenga, journaliste et directeur de programme à la radio-télévision Atlantique, une télévision qui émet à Matadi dans la province du Congo central. On va parler, messieurs, d'abord de l'idée qu'a évoquée le secrétaire général du PPRD, l'organisation du référendum. Jean-Pierre, quelle lecture vous faites de cette idée du PPRD?
Écoutez, je voudrais d'abord commencer par saluer la réussite de cette marche.
Qui a donné combien de personnes?
Enfin, je crois qu'il y a une guerre entre statisticiens. Mova parle de 2 millions. Mais le plus important pour moi, c'est que le PPRD a marché et triomphé. C'est ce qui importe. Donc, il a su démontrer qu'au-delà de l'opposition, à lui seul, il constitue une grande force de la majorité présidentielle. Ça, c'est notable. Kabila n'est pas seul. Alors, cette déclaration tonitruante me pousse à m'interroger in correcto sur l'intention réelle qu'a le PPRD. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas chercher à créer de stratagèmes Évidemment que ce qu'il a dit, je l'ai lu concède, c'est une expression démocratique. Dans ce pays, la liberté d'expression est constitutionnelle. Mais je crois que le moment ne s'y prête pas. Le moment ne s'y prête pas. Je ne vois pas la nécessité, l'opportunité d'un référendum. Je crois qu'aujourd'hui, toutes ces questions doivent être traitées au dialogue. Je crois que cette démarche risque encore.
Mais justement, pour vous parler du dialogue, est-ce que si cette idée de référendum ne va pas remettre en question, remettre en cause le dialogue tel que souhaité par le chef de l'État?
Le PPRD, évidemment, est libre de mettre son point de vue. Mais il reviendra donc aux dialoguistes de juger de la nécessité. Mais je trouve que s'il faut reviser la constitution pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir, je crois que ce n'est pas la bonne idée. Et puis je désapprouve une partie de son raisonnement quand il donne l'exemple du Burundi. Je suis de ceux qui pensent que aujourd'hui le Burundi n'est pas un bel exemple sur le plan démocratique. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville et tous les autres pays qui ont tripatué leur constitution ne constituent pas une référence en matière démocratique.
Donc pour vous, les trois pays ne font pas la référence.
Ce qui est arrivé, c'était l'expression populaire. Le peuple s'est exprimé. Mm-hmm. Mais je ne pense pas qu'il faille calquer ça. Nous avons une constitution qui veut que le chef de l'État en fonction fasse deux mandats et se retire. On croit que la tenue des élections devient hypothétique. On peut lui accorder une extension. Question de se préparer, de voir également comment financer les processus électoraux, de se retirer, de prendre sa retraite. Évidemment qu'il reste président, sénateur à vie, que de chercher des stratagèmes. Je concède au PPRD son initiative.
Je vous redonne la parole.
Je crois qu'elle est malvenue pour l'instant.
D'accord, je vous redonne la parole. Peter, comment vous avez analysé les propos d'Henri Mova?
Merci beaucoup.
Ainsi que ceux d'Emmanuel Chadari.
D'abord, il y a une chose qui a été dite ici par rapport à l'Est. Jean-Pierre Kayemba parlait des postes de résistance. Il y a la sécurité partout dans le monde, c'est des postes de résistance. Dans les postes de résistance, les gens meurent. Je ne sais pas si quelle valeur ils donnent à la dignité humaine. Quand nous sommes en train d'inaugurer des vols ici avec les Q400, les équipes avionique qu'on sort, des gens meurent. Quand on parle de projet de résistance, il a suffi que 4, 5, 6 Français meurent pour qu'on dise je suis Charlie. Mais il y en a combien qui meurent dans l'Est? Quand nous parlons du PPRD, il s'agit d'une marche. On a marché pour quoi?
Il voulait aussi soutenir l'action du gouvernement sécurité à l'Est.
On parle de marche. Mm-hmm. Ils ont dit que c'était pour l'anniversaire du chef d'État. C'est ce que moi j'ai suivi. Vous allez marcher pour souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État. Pendant que les gens meurent dans les postes de résistance dont nous a parlé Jean-Pierre Kayembe. Les gens meurent.
Ça paraît facile, Jean-Pierre Kayembe,
la capacité de l'écoute nous permet de mieux saisir l'interlocuteur. Vous allez parler calmement, je vous ai suivi, acceptez que je puisse un peu rencontrer vos élucubrations. Vous êtes en train de parler des référendums, je suis quand même assez sidéré. On nous a dit qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'argent, le fichier pose problème. Mais la circonscription du référendum, c'est la circonscription du chef de l'État. Vous allez faire les référendums avec quel fichier? Avec quelle circonscription? Parce que c'est le même avec Joseph Kabila. Ah, donc, vous êtes conscient aujourd'hui que vous pouviez organiser les élections présidentielles dans les délais, mais je ne parle pas de vous, Jean-Pierre Kayembe, mais je suis en train de rencontrer, en fait, ce que Mova Sakani a dit lorsqu'on parle de référendum. La circonscription, c'est la RDC. Pour l'élection du président, la circonscription, c'est la RDC. C'est le même fichier. La CENI va faire le même boulot. Alors, pour le référendum, il y a l'argent. Il y a le moyen, il y a le fichier, tout est faisable.
Alors rapidement, est-ce que vous pensez
pour l'élection du président, il n'y a pas le moyen ou le fichier pose problème? C'est des choses à dormir debout. Pourquoi on parle de 2 millions, excusez-moi. Vélodrome n'a pas pu contenir 2 millions de personnes. On a vu les images, Vélodrome n'était pas plein. Alors je ne sais pas, c'est même pas du mathématique, c'est de l'arithmétique que les gens doivent encore faire. Et puis il y a des choses qu'il faut aussi dire. Il ne faudrait pas essayer des...
Peter, je veux juste vous poser une petite question. Est-ce que selon vous, le référendum tel qu'évoqué par le PPRD, est-ce qu'il est constitutionnel?
Les gens qui ont emmené le président du Burkina Faso, le nom m'échappe,
Blaise Compaoré,
il y a des gens qui ont voulu l'emmener quelque part. Aujourd'hui, Compaoré paye. Seuls, ces gens-là ne sont pas là. On les appelle des corbillards. Ils vous emmènent au cimetière, eux, ils rentrent. Ils ont emmené Mobutu au cimetière. Ils ont dit, eux, que Mobutu était parti à Guadeloupe, il revenait jeudi. Le même jour, ils ont pris le canon pour traverser Pobraza. La FDL était entrée. Souvenez-vous. Ils ont dit hier que Kabila n'était pas légitime au RCD. Aujourd'hui, ils disent Kabila Toton Dio Nanouté. Non. Il y a eu un pacte républicain qui a été fait à San City. On va parler ici du conclave de Bruxelles. Le pacte a été fait. Ce pacte doit être respecté. Lorsqu'on lit l'exposé des motifs de la Constitution, c'est le problème de crise de légitimité qui a amené les gens à prendre les armes. Il y a eu deux morts. On a scellé un pacte. Ce pacte-là, il faudra le savoir. Si vous brisez ce pacte, vous ouvrez la boîte à Pandore. Et pour finir, les gens doivent lire l'article 220 de la Constitution. Il y a des dossiers qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle, notamment la durée et le nombre de mandats. Ça veut dire, le mandat de Kabila, le chef de l'État, président de l'RDC, s'arrête le 19 décembre à minuit. Le 20 décembre, nous allons avoir un autre président, et Joseph Kabila, comme l'a dit mon frère Jean-Pierre Kalim, là je le rejoins, et je vois qu'il est rentré quand même lucide, parce qu'il n'a pas pu soutenir des hérésies qui ont été dites, que Kabila est sénateur à vie.
D'accord.
Le pays continue, il y a une vie après la présidence.
Chambouillé, comment votre rédaction a-t-elle analysé les propos du secrétaire général du PPRD?
Merci Franklin. Avant d'arriver là, je veux placer tout d'abord moi par rapport à l'insécurité, à l'est, aux assassinats et autres crimes odieux, notamment dans la région des Béni et Loubero,
Loubero
et d'autres contrées à l'est. J'ai suivi ce que mes deux confrères ont dit, mais je voulais épingler un point important. C'est de savoir que ces tueries, ces assassinats qui se passent à l'est n'ont commencé qu'avec l'actuel pouvoir. Nous avons vécu dans ce pays avec M. Mobutu. Nous n'avions jamais entendu qu'il y avait des assassinats à la machette. C'était cela à l'est. Alors, le pouvoir actuel, le pouvoir issu de l'AFDEL qui arrive, qui nous amène ces méthodes, et de ces méthodes, il y a maintenant cette insécurité. Et vous le savez, il y a un point aussi important que je voulais vous dire. Cette question d'insécurité à l'est a été traitée à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'on avait décrété un huis clos. On n'a pas voulu que la population puisse connaître effectivement qu'est-ce qui se passe à l'Est. Pourquoi c'est huis clos? Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas exactement ce qui se passe à l'Est. Alors, c'est pour vous dire que le pouvoir en place, connaissant ce qui se passe à l'Est, a l'obligation de remettre de l'ordre. Bon, ça c'est une bonne tournée. Par rapport à la question que vous me posez, et comment nous avons analysé cette question des référendums telle que proposée par le secrétaire général du PPRD, mon frère, ça n'a pas été notre rédaction étant donné que nous suivons de plus près l'évolution politique dans ce pays et le PPRD avait déjà commencé ses manœuvres depuis longtemps. Il y a eu les livres du professeur Bochab, il y a eu ceci, cela. On a toujours dit, voilà, les procès d'intention. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on comprend effectivement leur pensée profonde est en train maintenant de se mettre au grand jour. Mais un fait réel, que vous devez aussi savoir, que nous parlons ici de la communication. Il s'agissait ces jours-là, le secrétaire général faisait une communication devant ses militants. Mais comment il était vêtu? Béret rouge, tricot noir. En communication, ça a une valeur. Béret rouge symbolise le sang, tricot noir, l'aider. Alors, c'est-à-dire, ils se préparent déjà à faire des choses qu'eux-mêmes sont conscients que ça ne va pas réussir et ça va créer des problèmes.
Et tout se passe le jour de l'anniversaire du chef de l'État.
Lorsque le secrétaire général à l'époque, c'était le professeur Évariste Bochard, est venu ici à Matali pour installer l'interfédéral du PPRD, lorsqu'il lui remettait le symbole du pouvoir, il lui disait, vous prenez ce symbole du pouvoir, vous prenez l'engagement de tout faire pour que nos idées puissent s'imposer, même jusqu'au sacrifice suprême. Alors, quand nous faisons, nous amassons tous ces éléments, vous devez comprendre que nos frères du PPRD préparent autre chose au lieu de trouver la solution dans la merde, parce qu'ils savent très bien que le temps n'est pas favorable à ce référendum.
D'accord. Alors, juste une petite question, Chambouy. Est-ce que cette prise de position de la part du secrétaire général du PPRD ne creuse pas finalement un fossé entre ceux qui sont pour le dialogue et ceux qui sont contre le dialogue?
Non. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Bruxelles.
On en parlera dans la deuxième partie.
L'opposition s'est regroupée.
Nous en parlerons.
D'ailleurs, nous allons aborder ce dossier d'un moment à l'autre. C'est-à-dire que cet esprit de référendum n'est rien d'autre que les intentions cachées du PPRD. Le PPRD, c'est le forcing. Hein? Ils veulent s'imposer, ils veulent faire, ils veulent changer la constitution pour que leur candidat, leur président puisse rester éternellement peut-être. Vous avez suivi dernièrement, il y a même quelqu'un qui est passé sur les antennes pour dire que voilà, est-ce qu'on peut prendre la retraite à 45 ans, hein? Notre jeune président a 45 ans, donc il a encore, il est fort, ceci, cela. Donc ils font fi au pacte social, à ce qu'on s'était convenu, tous les Congolais avaient accepté qu'il faut... le mandat du chef de l'État, c'est 5 ans, une fois renouvelable.
D'accord.
Voilà le pacte social.
Voilà.
Mais nos frères ne veulent pas de ce pacte, ils veulent faire autre chose, et c'est pourquoi ils cherchent de voies détournées.
Alors, nous allons finir par cette petite question pour ce premier thème de la soirée. Certains analystes estiment que cette déclaration du PPRD a le mérite de proposer une voie de sortie s'il n'y a plus de dialogue, et surtout si d'ici novembre prochain, les élections ne sont pas organisées. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement, Chamboui?
Non, moi je suis pas avec ces gens-là. Vous savez une chose, hein? Le dialogue va se tenir, parce que je sais qu'il va se tenir, mais il y a un problème que vous devez comprendre. Le PPRD tenait plus au dialogue parce qu'il voulait donner, passer à ce qu'on appelait le glissement. Mais parce que la Cour constitutionnelle leur a déjà donné ça. Si vous suivez leur discours, ils ne tiennent plus à ce dialogue tel qu'ils l'avaient, l'idée était auparavant. Hein? Maintenant, il tient maintenant à faire réviser la constitution pour
D'accord.
que le président reste à vie.
Merci beaucoup. Peter, qu'en pensez-vous?
Non, l'hypothèse de ça, si d'ici novembre il n'y a pas élection, c'est une hypothèse qu'il faut écarter. Nous devons être légalistes, respecter la constitution. L'article 73 de la constitution dit que le corps électoral est convoqué 90 jours avant la fin du mandat. Et si nous ne respectons plus cette constitution, ça veut dire que nous n'avons plus un document sur lequel... C'est la constitution qui constitue tout, passez-moi la tautologie, qui nous protège. Là, nous sommes en train de parler parce que la liberté d'expression, la liberté de presse est garantie par la constitution. Vous prenez de l'article 22 à l'article 29, vous avez tout ce qui est comme liberté. Donc, l'article 73 définit tout, alors il va y avoir élection. Il va y avoir élection et il n'y aura pas sa civilité. Parce que ce qu'il faut retenir ici, c'est que même par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est justement lié avec l'article 73 qui veut que ce président-là qui va être investi soit déjà élu 90 jours avant la fin du mandat.
La même question à vous, Jean-Pierre, et on finit par là pour ce premier thème.
Oui, d'abord, tout à l'heure, vous avez suivi Peter qualifier mes propos de lucubration. Je crois que c'était mal placé pour désigner les propos d'un confrère qui, du reste, est libre de donner son point de vue.
Amende honorable.
Par rapport à la tenue des élections, c'est un leurre, on ne doit pas se leurrer. Nanga a été clair, il est passé chez vous, il est passé sur RTGA.
Il est passé dans plusieurs médias.
Aujourd'hui,
il n'y aura pas élection.
Il ne faut pas s'illurer et se dire, rêver de la tenue des élections d'ici décembre 2016. Non, c'est impossible, c'est quasi impossible.
Alors,
d'ailleurs, même à l'hypothèse où on devait aller aux élections avec l'actuel fichier électoral, c'est quasi impossible, intenable. Alors, le dialogue politique devient incontournable. Et vous avez vu, tu sais qu'il dit, relever l'incontournabilité du dialogue. Aujourd'hui, il reste comme bon nombre d'observateurs l'ont relevé, la seule voie possible pour définir l'après 2016 par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Les hauts magistrats n'ont fait que leur travail. Ces gens sont payés pour ça. Ils sont payés par la République. Ils n'ont fait qu'interpréter ce que dit la Constitution. Et c'est clair, il n'y a pas de débat.
D'accord. Et c'est d'ailleurs vous, Jean-Pierre, qui nous donnez une belle transition pour entrer dans notre deuxième thème de la soirée qui parle du conclave de l'opposition à Bruxelles. Le conclave de l'opposition a accouché hier nuit d'un cadre permanent des concertations des forces politiques et sociales dénommé Rassemblement pour le respect des valeurs républicaines, placé sous le leadership du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Selon les participants, un document final appelé Engagement des gens Val a été adopté à l'unanimité par toutes les délégations et chaque participant y a apposé sa signature. Ils ont accepté d'aller au dialogue selon l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. Pas de dialogue selon l'ordonnance présidentielle, précise cependant un des délégués de la société civile à ses assises. Oscar Rachidi résume ici les grandes lignes de cette résolution adoptée au téléphone de Jeff Ngoï.
Il y a un rassemblement qui vient d'être créé qui aura comme objet la défense des valeurs de la la République. Ce qui est retenu dans les grandes lignes, c'est un respect de la Constitution, de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, et quoi, le conclave a demandé à ce que le gouvernement puisse libérer tous les prisonniers politiques. Donc, c'est une libération immédiate qui est demandée par les membres du conclave.
L'acte que vous venez d'adopter, il a été signé par tout le monde?
C'est un acte d'engagement qui sera signé par tout le monde parce que tous les membres, tous les participants sont présents dans la salle et au moment où je vous parle, il y a certains membres qui commencent déjà à signer ces rapports. Donc, il n'y a aucun membre qui est sorti de la salle. Tout a été accepté à l'unanimité par tous les membres qui ont participé à ces conclaves.
Est-ce que vous avez accepté d'aller au dialogue?
Le dialogue convoqué par l'ordonnance du président Kabila est rejeté. Donc, le dialogue, selon l'esprit de la résolution 2277, est accepté.
Vous l'avez entendu vous-même, le dialogue, selon l'ordonnance du chef de l'État, est rejeté. Je rappelle que la majorité au pouvoir a félicité l'initiative du conclave de l'opposition politique congolaise réunie autour du président de l'UDPS à Bruxelles, en Belgique. Se basant sur le discours d'ouverture d'Étienne Tshisekedi, le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, le député national Joseph Kokoniangi, a estimé que l'option d'aller au dialogue, contenue dans l'adresse du président de l'UDPS, est un grand pas vers le processus électoral en RDC. Jean-Pierre, le dialogue convoqué selon l'ordonnance présidentielle est rejeté dans la résolution du conclave. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, il n'y a rien de neuf dans ce qui sort de Bruxelles. Tout ce que je note, c'est que les lignes tentent de bouger au niveau des anti-dialogues. Ce que j'aurais été de plus important, c'est que ils ont néanmoins accepté d'aller au dialogue. Dialogue sous le format Kabila, sous le format de la communauté internationale, peu importe les concepts, peu importe les termes, le plus important, c'est que ils relèvent l'incontournabilité de ce forum. Ça, c'est le plus important. Alors, de quoi va-t-on parler au dialogue? Ils veulent d'un dialogue qui puisse accélérer la tenue des élections. Mais je le disais tantôt qu'il est aujourd'hui impossible, intenable, d'avoir les élections d'ici décembre 2016. Donc, nous devons aller au dialogue.
Donc, pour vous, y a rien de
planifié l'après 2016. Non. Ce qui est important ici, c'est que Tshisekedi a tenté de réussir ce que Kodjo n'a pas pu. Donc, quand il réunit la dynamique, et du côté de la dynamique, d'ailleurs, on sent que les lignes bougent. Le G7, qui jusque-là a été opposé foncièrement au dialogue, l'accepte finalement, peu importe les formats. Ça, c'est le plus important. Alors, attendez, je vais dire un mot.
Rapidement.
Oui, c'est le plus important qu'on ait accepté, qu'on ait dialogué, parce que on sait que toutes les solutions aux problèmes qui parsèment aujourd'hui le processus électoral ne peuvent trouver solution qu'en étant au dialogue. Pour les restes, je les considère en théorie des négociations comme étant de la surenchère. Donc, chaque partie, chaque composante essaie de démonter les enchères.
Un peu comme
c'est
la
normal. Ben, c'est normal et je crois qu'ils finiront par trouver un compromis. Mais rêver d'une expansion, enfin, d'une transition sans Joseph Kabila, comme je l'ai entendu chez certains conclavistes, ça, c'est un leurre.
D'accord, pas de problème. Peter, comment vous avez analysé, vous, l'ensemble de cette déclaration et même la sortie du Rassemblement pour les valeurs républicaines?
Merci beaucoup, Jean-Pierre Kayembeta, confrère, pour qui j'ai beaucoup d'estime, hein, et l'équilibration, si ça vous a secoué, je retire rapidement, je vais faire plaisir.
On a déjà fait une amende honorable.
Oui, amende honorable. Par rapport à cette messe, j'ai entendu les gens parler, j'entends encore aussi si conclave, une réussite totale. C'est vrai que le dialogue est incontournable, mais quel dialogue? C'est le dialogue par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba. Il faut préciser, le dialogue convoqué
c'est
par...
C'est ce qui est demandé même dans ce document.
Le dialogue convoqué par le président de la République, Joseph Kabila, a été rejeté. Deuxièmement, par rapport aux résolutions, le 19 décembre 2016, à minuit, le mandat du président actuel prend fin.
Qu'est-ce qui se passe après?
Ce qui ne se passe pas après, ce qui se passe avant. Ça veut dire que le dialogue va être organisé par rapport à la résolution 2277, qui veut que les élections se tiennent dans le délai. Et mon frère Jean-Pierre Kayembe, pour qui j'ai beaucoup d'estime, lorsqu'il parle en tant que journaliste, doit savoir qu'il y a certaines choses, lorsque nous le disons, qui doivent respecter une logique. Notre rôle étant d'informer, de former, nous ne pouvons pas dire des choses qui vont à l'encontre de principes établis. Le principe, c'est la Constitution. À moins que Kayembe me dise ici que lui croit aux individus qu'aux textes, parce que les individus passent, les textes restent. Alors, par rapport à ça, le texte dit que les élections s'organisent 90 jours avant la fin du mandat. Et par rapport à l'après 19 décembre, je suis quand même surpris qu'un confrère pour qui j'ai beaucoup d'estime personnalise le dossier par rapport à Kabila. Donc, vous le voulez ou après, Kabila va rester. Non ! Il ne s'agit pas de Kabila va rester. Il s'agit de la Constitution. Que dit la Constitution ? La Constitution dit un mandat une fois renouvelable. Ça veut dire 5 ans, une fois renouvelable, ça fait 10 ans. Il n'y a pas de demi-journée. Il n'y a même pas question de consensus. Ça veut dire qu'il y a une jurisprudence avec Haïti. Lorsqu'on n'est pas en mesure d'organiser les élections, parce qu'on a plombé la CENI, parce qu'on n'a pas donné les moyens, parce qu'à la fin, on dit qu'on peut organiser un référendum qui demande la même circonscription que le président, mais le président ne peut pas le faire. Alors ça, on comprend qu'il y a un jeu. Par rapport à ça, on ne peut pas être jugé parti.
Voilà, on a presque plus beaucoup de temps.
Oui, pour finir, lorsqu'il n'y a pas élection, c'est clair, la Constitution va être respectée. Que dit la Constitution par rapport à ça? Vous respectez la Constitution. Si nous sortons de la Constitution, je l'ai dit tantôt ici, nous ouvrons la boîte à Pandore et il y a Jean-Pierre Kayembe, peut-être il prend à la légère ce qu'il dit, qu'il n'y aura pas élection cette année, ça paraît facile, mais ça résonne très mal au sein de la population qui veut voir le passage civilisé de flambeau, qu'a dit Lambert Mende, pour lequel j'y crois aujourd'hui, que ce passage civilisé de flambeau se fera cette année, merci, que Joseph Kabila sera sénateur à vie.
Merci beaucoup. Alors, Chambouyi, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Votre commentaire rapidement sur les déclarations, même le contenu même du document final du conclave de Bruxelles.
En lisant ce document, moi, j'ai une autre lecture. Je vois que l'IDPS a réussi donc à faire aligner tout le monde sur sa feuille de route. Si vous lisez la feuille de route de M. Étienne Tshisekedi, qu'il avait publié au début de cette année, vous trouverez que rien n'a changé. Il demandait toujours les dialogues selon l'accord
cadre d'Addis Abeba.
Quelques temps après, quand il veut évoluer, c'est selon la résolution 2277. Mais l'IDPS a réussi ici à faire adhérer à sa façon de voir les choses, comme nos amis de G7 qui ont refusé les dialogues, qui acceptent, comme nos amis de Dynamique qui ne voulaient pas, parce que l'IDPS lui-même n'a jamais accepté les dialogues convoqués par Tshisekedi. Si vous suivez très bien, cette feuille de route, vous trouverez que l'IDPS reste toujours attaché à Addis Abeba.
D'accord.
Alors maintenant que tout le monde accepte de cette même façon, moi je vois que c'est la victoire de l'IDPS qui aujourd'hui sort comme leader dans l'opposition et maintenant il n'y aura plus de débat. On connaît que l'opposition a maintenant une interface. Il y a l'opposition représentée par Étienne Tshisekedi et les autres.
Vous avez dit que l'UDPS a réussi. Elle est maintenant le leader de l'opposition en RDC. Est-ce que vous pensez finalement qu'avec ce conclave, le ciel politique congolais s'éclaircit? Très rapidement, c'est ça aussi votre conclusion.
Pas du tout. D'ailleurs, les choses se compliquent. Parce que les gens de la majorité, vous le savez, et le préfet de l'État a déjà signé l'ordonnance, et ils s'attiennent à leur ordonnance, alors que les autres disent, pas cette ordonnance-là, nous avons... D'ailleurs, les choses se compliquent. Moi, je ne vois même pas. Ça se complique davantage, selon ma lecture.
D'accord. Jean-Pierre, est-ce que les choses, le ciel politique congolais s'éclaircit? C'est ça aussi votre conclusion?
Non, de plus en plus, c'est l'opposition qui tente de compliquer les choses. Je crois qu'elle a tout eu. Tout ce qu'elle a demandé, obtenu, la facilitation internationale, la co-facilitation, le panel. Donc toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour aller au dialogue, ne pas le faire, serrer, promouvoir la politique de la terre brûlée.
Merci. Peter, pour conclure.
Une réussite de l'opposition qui a pu parler le même langage, comme ça a été à la conférence de Berlin à l'époque, comme ça a été aussi par rapport aux résolutions de Sun City. J'ai même entendu les gens dire comment les gens vont à l'étranger, Lumumba risque de se réveiller. Je me suis dit, mais quand les gens sont allés se rencontrer à Ibiza ou à Monaco, c'était...
Donc pour vous,
le ciel s'éclaircit et l'opposition a fait un coup fort. Et aujourd'hui, un mot de cette opposition qui s'est réunie à Bruxelles, un seul mot, déstabiliserait le régime en place.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette tribune de presse de ce vendredi 6 juin 2016. Équipe rédactionnelle Guy Maté, supervision Pelle Kipé Lamondo, mise en onde Sylvain Matundu et présentation Biré Conquin Louchaka. Remarques et suggestions, écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Fidèles auditeurs, merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de la fréquence de la paix, car ça continue juste après nous.